prêté pour un enlu entre l'Uruguayen et le Brésilien, une relation qui est en train de naître.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Votre rendez-vous du vendredi, l'avant-match. On parle bien entendu des matchs qui viennent ce week-end, mais on revient sur la semaine qui est passée. Vous le savez, les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Deuxième phase, des matchs intéressants mardi, mercredi et également l'Europa League. Et également, nous parlerons du football africain, un passage inévitable dans cette première partie. Avec nous, Hervé Penot, notre monsieur football africain. Bonsoir Hervé.
Bonsoir à tous, quel plaisir.
Également David Lortolari qui est avec nous, monsieur football allemand. Bonsoir David.
Bonsoir Hakim, bonsoir Hervé, salut à tous. Décidément on ne se quitte plus hein, Hervé, avec le match du PSG contre Dortmund. Je crois qu'on va encore se reparler d'ici là, je pense, dans trois semaines.
C'est un match, l'un des beaux matchs d'ailleurs, cette semaine. Peut-être un peu décevant pour le Paris Saint-Germain. Beaucoup de critiques après cette sortie, mais n'empêche, ça fait 2-1. Et vu la physionomie de la rencontre, on peut dire que le PSG a sauvé les meubles. Parce que quand on voit la rencontre, le scénario, la formation allemande aurait pu l'emporter. Peut-être va-t-elle regretter les ratés. Dans un instant également, le football italien avec cette raclée, l'Atalanta Bergame qui découvre la Ligue des Champions face à Valencia. J'ai oublié de saluer nos amis de l'autre côté de la vitre, notre ami Naji à la réalisation et également Abdelnour Al-Moussaouir, surnommé Badia Ouk parce qu'il ressemble au joueur du Wydad de Casablanca et qui assure la retransmission de cette émission sur Facebook. La deuxième partie, on ira en Espagne aussi. On parlera du football anglais parce que le championnat anglais, on le sait, le championnat anglais est dominé largement par Liverpool, Liverpool qui a chuté à Madrid. Mais d'abord, le football africain, un petit mot sur ce changement de sélectionneur, en tout cas le limogeage du sélectionneur Ibrahima Camara en Côte d'Ivoire, et pourtant il avait fait du beau travail jusqu'à présent, Hervé.
Oui, du beau travail, disons qu'il s'était mis à la suite de Wilmots. Bon, on peut pas dire que c'était un entraîneur ultra charismatique. Alors attendez, il a quand même des excuses parce que c'était pas non plus. Il a pris après la génération dorée, enfin l'après génération dorée, mais après la victoire à la CAN, puisque Wilmots n'avait pas fait l'affaire relativement vite. Mais c'est vrai qu'il a pas eu non plus un impact immense sur l'équipe nationale et puis son élimination lors de la dernière CAN, quart de finale. Alors, attendez, quart de finale, c'était quand même contre le futur vainqueur, hein, puis séance tir au but. Mais même contre le Mali, sa victoire en huitième, ça avait été vraiment plus que tiré par les cheveux. On n'a pas senti une adhésion complète à un projet de jeu. Malheureusement pour lui, il n'a peut-être pas eu assez de temps pour mettre tout en place. En plus, des joueurs étaient vraiment quand même dans un niveau de forme parfois assez incertain. Mais bon, on a la sensation que la Côte d'Ivoire voulait un entraîneur peut-être plus de renom, qui puisse impacter un peu plus sur les joueurs qui ont parfois des tempéraments qui sont assez difficiles à gérer.
Voilà donc pour Brahima Camara. Un petit mot encore sur le football africain. On l'a vu en l'espace d'une semaine, le Zamalek du Caire avec un certain Patrice Carteron. Hier, l'équipe a remporté la Supercoupe d'Espagne. Une semaine après avoir la Supercoupe d'Égypte, pas d'Espagne bien sûr. Une semaine après avoir remporté la Supercoupe d'Afrique. Et Patrice Carteron, sur tous les bons coups, j'allais dire. Déjà l'année dernière, il avait permis au Raja de remporter cette Supercoupe aux dépens de l'Espérance, sans oublier la Ligue des Champions avec le TP Mazembe. Une troisième place avec le Mali lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Mine de rien, c'est quelqu'un qui a une expérience et qui connaît parfaitement le football africain. Et non seulement ça, il gagne des titres, Hervé.
Absolument. Alors lui, c'est l'entraîneur globetrotter, si vous voulez. Il a pas peur de bouger, d'aller de droite et de gauche. Je me souviens une fois, je l'avais appelé, il était en Argentine, en train de faire un trek, en train de marcher là-bas pour son plaisir personnel. Et c'est alors qu'il était à l'époque à Phoenix Rising, hein, parce qu'il avait été envoyé là-bas par Didier Drogba, parce que c'est un proche de Drogba. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont connus grâce à des connaissances communes. Et puis depuis, ils sont toujours un petit peu suivis. Donc lui a suivi la fin de carrière de Didier Drogba pour partir aux États-Unis. Et surtout, effectivement, c'est que partout où il est passé, il a récolté quelque chose. On parlait du TP Mazembe au Mali, assez rapidement, il a eu cette troisième place. TP Mazembe, on a vu ce qu'il a fait. À Lali, il a fait une finale de Ligue des Champions. Raja, vous en avez parlé. Pareil pour Zamalek. Donc, c'est vraiment un entraîneur qui gagne. C'est quelqu'un qui a qui a une poigne et à la fois une idée de ce qu'il veut dans le foot, mais tout en étant, vous savez, pas très très attaché. Par exemple, si vous me disiez que demain il devient l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, ben, je serais peut-être qu'à moitié surpris, parce que ça lui pose aucun problème de faire et défaire ses bagages et de repartir, parce qu'il a compris que le football aussi c'était une forme d'aventure. Et puis on sait par exemple que quand vous êtes à Zamalek, vous n'êtes jamais sûr d'y rester très longtemps, hein, dans les clubs égyptiens. Lui, il connaît bien, puisqu'il en a quand même fait 3, hein, relativement vite, hein, dans un laps de temps assez court. Donc, hein, donc voilà, tout ça fait que c'est vraiment c'est quelqu'un d'assez attachant, hein, mais avec une forme de liberté d'esprit, hein, qui lui permet d'aller de droite et de gauche, et puis de voyager. Son métier lui a permis ça, et surtout d'être bon, parce qu'au final, ce qu'on lui demande, c'est quand même d'être un bon entraîneur. Et de ce côté-là, il a eu des résultats partout où il est passé, et on l'a vu avec le Raja Casablanca, évidemment.
Voilà donc pour Patrice Carteron. On ouvre la page football européen avec les 8e de finale aller de la Ligue des Champions. J'allais dire le match phare, parce que bon, il y avait Liverpool, quand même le tenant du titre, à Madrid face à l'Atlético, mais le Paris Saint-Germain qui se déplaçait en Allemagne pour un vrai test face au Borussia Dortmund. On le sait, une équipe joueuse, et on l'a vu encore l'autre jour. On va parler du PSG avec Hervé, mais d'abord cette prestation, cette production de la formation allemande. Tout le monde a vu le match, bien sûr. David, est-ce qu'on peut nourrir, enfin côté allemand, est-ce qu'on peut nourrir quelques regrets après surtout ce but marqué par Neymar?
Ben, oui, alors on savait qu'il faudrait réussir 2 matchs pleins à Dortmund. On l'avait compris, on l'avait intégré évidemment en ayant identifié les individualités et la valeur des joueurs du Paris Saint-Germain. Mais on avait, nous, identifié aussi dans les semaines qui ont précédé que Dortmund était en train, tout juste, de trouver son équilibre avec ses attaquants et une défense branlante jusque-là, et qui a retrouvé un petit peu de stabilité et qui a perdu de la friabilité. Et sur ce match-là, ça s'est vérifié. On a discuté dans l'émission précédente en après-match avec Hervé lundi, c'est-à-dire que Emre Can et Axel Witsel au milieu, voilà un duo clé, un duo essentiel. Et peut-être que Thomas Tuchel, côté PSG, n'a pas mesuré cela suffisamment, et peut-être manquait-il un élément au milieu de terrain pour vraiment perturber cet équilibre-là trouvé par Dortmund. C'est la grande réussite de Lucien Favre avec ce recrutement d'Emre Can. Et alors oui, évidemment, les supporters de Dortmund, j'ai discuté un petit peu avec eux après le match, l'idéal aurait été d'avoir 2 buts d'écart, d'avoir un avantage de 3-1 ou de 2-0 qui aurait permis de vraiment se dire ça y est, là on va se qualifier, on va le faire. Là, il y a forcément un doute, mais ça permettra aussi à l'équipe de rester complètement concentrée en vue du match retour.
Voilà donc pour le match aller, des regrets. On va parler dans un instant de Leipzig qui a laissé une bonne impression lors de cette rencontre face à la formation anglaise de Tottenham. Victoire en déplacement et le score aurait pu être plus lourd. Mais côté Paris Saint-Germain, il y a eu beaucoup de critiques parce que finalement, le score n'est pas aussi catastrophique. Qu'est-ce qu'on reproche à cette équipe du Paris Saint-Germain et surtout à son entraîneur qui est, on peut dire qu'il est sur la sellette, Hervé?
Oh oui, ça on peut le dire qu'il est sur la sellette. Et à moins de remporter la Ligue des Champions, je vois pas tellement comment il pourrait rester sur le banc du Paris Saint-Germain l'année prochaine. On a d'ailleurs vu Leonardo partir assez vite, esquiver dans le bus du Paris Saint-Germain pour téléphoner. Alors peut-être que c'était à sa femme, hein, vous allez me dire, mais peut-être aussi que c'était à des instances supérieures du PSG, parce qu'il y avait quand même une notion d'échec énorme dans cette performance à Dortmund. Pas le résultat, parce que effectivement 2-1, c'est rien en soi. Le Paris Saint-Germain a largement les moyens de remettre tout ça d'équerre au match retour, de se qualifier, d'enfin passer depuis quelques années ce 8e de finale et de casser une mauvaise dynamique. Donc au contraire, finalement, tout est possible lors du match retour. Mais c'est surtout la manière dont le match a été abordé par le Paris Saint-Germain, les difficultés durant la rencontre, parce que c'est quand même un miracle qu'il n'y ait que 2-1. C'est qu'un Navas a fait un gros gros match, hein. Bon, vous allez me dire il est là pour ça, mais on a vu un Paris Saint-Germain totalement détruit sur le terrain, hein, parfois par les attaques de Dortmund, hein, en immense difficulté, une défense qui a pris l'eau. Et alors, ce qui interpelle aujourd'hui, c'est de voir que Tuchel avait mis en place un 4-4-2 depuis 2 mois, un peu plus. On se posait toujours la question, il ira jusqu'au bout avec ses 4 offensifs? Il l'a toujours mis. Et puis le jour où arrive le match décisif, le fameux match qu'on attend depuis une éternité, le fameux match que vous avez préparé pendant 2 mois, d'un seul coup, on change tout. On enlève un attaquant, donc on joue plus, on aurait pu éventuellement jouer en 4-3-3 par exemple, mais même pas. C'est-à-dire qu'on joue dans un 3-4-3, un système qui n'a pratiquement jamais fonctionné au Paris Saint-Germain, puisque toutes les stats montraient qu'en fait, en jouant comme ça, ils avaient perdu tous leurs matchs, hein, que ce soit contre Guingamp, Rennes, que ce soit contre Lyon, etc., etc. Donc ça paraissait incroyable. Et après avoir vu ça pendant 45 minutes, un Paris Saint-Germain qui pouvait pas, qui n'y arrivait pas, eh bien, il n'a pas du tout réagi, Tuchel. Parce que bon, on peut faire un choix d'un système et puis après se tromper et puis se dire bon, on va tenter autre chose. Mais là, pas du tout. Ça a été pareil en deuxième période. Et lui, n'a fait que des modifications de poste par poste. Donc, on a eu la sensation que lui-même ne bougeait plus, ne faisait plus rien. Un peu comme quand Manchester United au retour, quand il y a eu l'élimination l'année dernière en huitième de finale. Donc, évidemment que lui a pris toute la marée sur le dos. Mais attendez, il y avait des joueurs sur le terrain. On n'a pas reconnu ces joueurs-là. Mais il faut dire qu'ils étaient quand même vraiment bloqué dans leur expression collective. Et puis, alors après, si vous voulez, comme c'est le Paris Saint-Germain, c'est jamais comme les autres. Le Paris Saint-Germain, il se passe toujours des choses au Paris Saint-Germain. Et dans la foulée, vous avez un Neymar qui a été quand même très mauvais, hein, alors c'est vrai qu'il marquait un but, mais enfin bon, il a failli en marquer un deuxième. C'est-à-dire que même lui, dans un jour complètement sans, il a failli mettre un doublé, mais il frappe la barre transversale en fin de match. Mais ça veut dire quand même, donc vous avez une histoire Neymar qui sort du terrain, qui dit, moi je voulais jouer les matchs précédents, on m'en a empêché. Alors, ça a fait un petit peu grincer des dents en interne, parce que s'il a été protégé, c'est parce qu'il avait quand même une douleur costale. Lui, bien sûr, se rendait pas compte, puisque lors des entraînements, on demande de pas le toucher. Donc il faisait très attention à Neymar. Mais lui, il se disait, je pouvais jouer. Mais en fait, non, il y avait quand même un vrai risque à ce qu'il prenne un coup. Et imaginez que vous, Neymar, qui se reblesse juste avant un huitième de finale. Ça aurait été un scandale absolu. Donc il était logique que les médecins demandent à ce qu'on aille au bout du bout et puis qu'ils reprennent simplement contre Dortmund. Mais si vous voulez reprendre dans ces conditions, première chose, c'est d'être en forme physique. Et malheureusement, avec Neymar, quand il ne s'entraîne pas pendant 17 jours, il y a quelque chose qu'il sait faire, c'est la fête. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que quand vous êtes un joueur de très haut niveau, vous pouvez pas, vous devez d'avoir une... alors, si c'est un entraînement invisible de haut niveau, mais en tout cas, pas simplement des fêtes d'anniversaire avec tous vos amis. Il avait quand même invité pas mal d'amis du Brésil qui sont restés une semaine. Donc après, ça pose problème. Et alors, vous avez eu cet incident Neymar, incident Meunier qui s'était pas rendu compte qu'il allait prendre un carton jaune et qu'il pouvait être suspendu pour le match retour. Et donc, il a dit, si on m'avait dit, vous rendez compte, c'est y a qu'au Paris Saint-Germain que ça arrive. Et Verratti qui prend aussi un carton jaune et qui sera privé du match retour. Et là, c'est un vrai manque pour cette équipe, car ça avait été certainement le meilleur joueur sur le terrain, côté parisien évidemment.
Voilà donc pour le Paris Saint-Germain. On passe le bonjour à tous nos auditeurs. Samir Ouarab qui passe le bonjour aux consultants et à toute l'équipe. Abdrahim Bakali et vive le WAC. Karim Alexandre et également Khaoula Abidin. Bonsoir. Bonsoir tous les sportifs. Hervé, vous restez avec nous. David, on l'a vu, l'équipe du Borussia Dortmund qui aurait pu l'emporter par un score plus large, c'était la même chose pour Leipzig qui a impressionné face à l'équipe de Mourinho à Londres. Peut-être va-t-elle aussi regretter lors du match retour finalement après un petit but, mais aussi il y a d'autres équipes allemandes en Europa League, l'Allemagne qui a rassuré en attendant la confirmation.
Oui, avec un point commun qui est une forme de courage. Et à Leipzig, on ne se laisse pas démonter. Par exemple, pour ce match-là, il y avait quand même 3 défenseurs centraux titulaires absents. Le capitaine Villiorban, qui n'est pas là depuis plusieurs semaines, absence de longue durée. Et messieurs Upamecano et Konaté étaient absents aussi, les deux défenseurs centraux habituels. Nagelsmann ne s'en est pas laissé compter, a composé une défense un petit peu de bricolage. Et malgré cela, ça a tenu parce que, bien sûr... On ne s'est pas focalisé sur ce problème. On a joué vers l'avant comme Leipzig le fait toujours, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de volonté, avec une forme d'insolence aussi. Et c'est pour ça que cette équipe est en réussite ces derniers temps aussi, sans doute qu'elle est sur la phase ascendante. Et oui, on le regrettera peut-être, mais on a réussi quand même un beau match à Londres et on peut s'attendre à ce que l'équipe à domicile continue de jouer de cette façon. Il n'y a pas de raison, parce qu'on ne calcule pas à Leipzig, on va vers l'avant et ce sera pareil à domicile. Alors ça occasionnera peut-être un jour ou l'autre un accident de parcours, surtout qu'on découvre ce stade de la compétition, mais c'est quand même très positif pour le public. Et puis les autres équipes engagées en Ligue Europa, c'est un peu pareil. On l'a vu hier soir avec Francfort qui a brillé contre le RB Salzbourg de l'ancien
Erling Haaland qui est maintenant parti à Dortmund. On a vu Leverkusen certes rejoint de 2-0 à 2-1 par Porto, mais qui a aussi pris le match à son compte. Et puis Wolfsburg s'impose aussi. Donc pour l'instant, à mi-parcours, effectivement, c'est très positif avec un football volontaire, un football offensif de toutes ces équipes. Reste à voir le Bayern la semaine prochaine, bien entendu, contre Chelsea.
Le Bayern Munich qui joue dès ce soir en championnat. Merci beaucoup, David. On aura bien entendu les derniers résultats, les analyses et également les faits marquants dès lundi prochain dans l'après-match. Merci David, bonne soirée. Dans un instant, Simone Rovera pour le football italien et surtout cette prestation de la l'Atalanta Bergame qui a battu le FC Valencia 4-1 après avoir mené 4-0. Je reviens en France pour retrouver Hervé Penaud. On a parlé du Paris Saint-Germain, bien entendu. Le match retour, tout est possible, mais est-ce ce qui s'est passé ces dernières années, la remontada face au Barça ou encore face à Manchester United, trotte encore dans la tête des joueurs, des responsables? On a l'impression qu'il y a une montagne, il y a une pression énorme pour l'équipe du Paris Saint-Germain.
Ben oui, c'est une question qu'on peut se poser effectivement, et aujourd'hui force est de constater qu'on a tendance à répondre par l'affirmative, parce qu'on a eu la sensation de Paris Saint-Germain effectivement qui abordait, on en avait parlé la semaine dernière d'ailleurs, qui abordait pas ce match-là comme un Barcelone pouvait l'aborder, comme un Real Madrid pourrait l'aborder, comme un Chelsea même pourrait l'aborder, un Bayern Munich pourrait l'aborder, c'est-à-dire tranquillement comme si c'était un match comme un autre. On a l'impression qu'on parle tellement de ce souci de huitième de finale avec le Paris Saint-Germain, et voir car un peu il y a quelques années, et bien que il y a une forme de blocage, et c'est pour ça que Leonardo avait évoqué cette négativité que transmettaient les suiveurs du Paris Saint-Germain autour de son équipe. Mais c'est vrai que on a l'impression d'un impact sur les joueurs, puisqu'ils sont incapables de se délester, de se sortir de cette pression qui existe à ce stade de la compétition. Maintenant ça veut dire qu'ils ont un gros match à jouer pour le retour, et justement ça sera eux à un moment de dire voilà, on peut enfin oublier ce qu'on dit toujours, ce blocage en huitième de finale. Mais tout le monde a noté quand même, et Tuchel le premier, qu'il y avait une forme de peur qui s'était instillée dans ce Paris Saint-Germain là, et c'est un vrai souci. Quand vous êtes le Paris Saint-Germain, vous avez autant d'investissements et autant de grands joueurs, vous pouvez pas avoir peur simplement de jouer un match de huitième de finale à Dortmund, c'est pas possible. Et malheureusement, c'est quand même ce qui s'est passé. Donc l'impact psychologique est peut-être encore bien présent dans les têtes des joueurs du Paris Saint-Germain.
Voilà. Donc pour le PSG, rapidement, une minute maximum, comme ça on termine cette première partie avec Simone Rovera pour le football italien, parce qu'il y a ce problème du Paris Saint-Germain, c'est vrai, mais il y a le patron du Paris Saint-Germain qui a également des problèmes externes, et sur le côté purement sportif, Lyon qui alterne le bon et le moins bon doit absolument se réveiller, se révolter en quelque sorte pour rassurer ses supporters en vue de l'avenir. Rapidement Hervé.
Oui, alors c'est vrai que Nasser Al Khelaifi a des problèmes avec la justice suisse, mais comme il a géré ses soucis avec la FIFA, donc ça devrait pas être aussi grave que ça aurait pu l'être, mais parce que vous savez c'était des histoires avec Jérôme Valk de cadeaux, de choses comme ça, et d'une maison qui avait été prêtée, enfin bon. Mais comme ils ont réussi à s'arranger avec la FIFA, c'est un procès qui devrait quand même pas être trop dur pour le président du Paris Saint-Germain, en tout cas moins dur que s'il n'y avait pas eu cet arrangement avec la FIFA. Et un arrangement assez logique en fait, quand on connaît le fond du dossier. Quant à Lyon, ils vont jouer un match capital ce soir, avec obligation de s'imposer à Metz, parce que si jamais ils venaient à perdre à Metz, ils sont déjà 11e du classement, ils ont 7 points de retard sur le 3e, on pourrait se retrouver dans une situation assez invraisemblable, c'est même voir Lyon éjecté de toute Coupe d'Europe, ce qui ne s'est jamais passé depuis 97, parce que on oublie une chose avec Lyon, c'est que c'est quand même le club le plus régulier au haut niveau en France depuis le début des années 2000. Ils sont toujours en Coupe d'Europe, 90% des fois en Ligue des Champions, ils font un travail assez incroyable.
Voilà, merci beaucoup Hervé.
Pas de souci.
Merci, bonne soirée. Simone Rovera, notre monsieur football italien, est avec nous. Bonsoir Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Deux petites questions. Je le disais tout à l'heure, on va revenir sur l'Atalanta Bergame et cette éclatante victoire face à Valencia, plus expérimenté, vainqueur de la Coupe d'Espagne. Mais d'abord, puisqu'on parlait du Paris Saint-Germain à l'instant avec Hervé Penaud, est-ce que le Paris Saint-Germain pourrait changer d'entraîneur, parce qu'on parle d'Allegri, tout simplement? Est-ce que c'est du sérieux?
C'est sûr que Massimiliano Allegri cherche un club pour la prochaine saison. C'est sûr qu'il a une excellente relation avec Leonardo. Et il a dit même hier, dans un entretien, plusieurs entretiens qu'il a fait en France, Lui serait par contre, Allegri serait par contre en hypothèse Paris Saint-Germain. Il faut voir quand sera le moment de grandes décisions. Si le PSG va appeler Massimiliano Allegri, je pense que Massimiliano Allegri sera séduit par cette hypothèse. Il faut attendre encore quelques mois, mais je pense vraiment que c'est un mariage possible.
Voilà donc pour ce mariage possible pour Allegri annoncé du côté du Paris Saint-Germain, mais rien n'est encore fait. Je reviens sur la Ligue des Champions cette soirée parce qu'on a vu l'équipe de l'Atalanta Bergame qui a terrassé et aurait pu l'emporter par un score plus large face au FC Valencia 4-1 après avoir mené 4-0. C'est la bonne surprise, bien sûr, reste à confirmer lors du match retour.
Oui, mais c'est pas une surprise, ni pour toi, ni pour tous les spectateurs qui nous écoutent chaque semaine. Depuis le début de la saison, j'ai dit que l'Atalanta, c'était l'équipe qui pouvait surprendre la Ligue des Champions, et ça a été le cas. La chose incroyable de cette équipe, au-delà du budget plutôt moyen, modeste, 100-150 millions d'euros, bon, bien sûr, c'est beaucoup, mais pas en rapport au cadre européen, c'est le fait qu'ils ont continué à jouer de la même façon après qu'ils avaient perdu 3 matchs en phase des poules de Ligue des Champions, après qu'ils menaient déjà 4-0, toujours la recherche du but en plus, toujours à l'offensif, toujours avec les joueurs de qualité comme Iličić et Papu Gomez, et toujours des buts qui arrivent des latéraux. C'est l'ADN 100% Gasperini. La surprise n'est pas terminée, bien sûr, ils ne sont pas encore en quart de finale, il faut faire un match similaire et toujours propositif, offensif et gagnant peut-être aussi à Valence. Mais chaque année, on voit de belles surprises en Europe. L'année dernière, c'était l'Ajax. Cette année, c'est l'Atalanta. Et j'espère que les rêves de cette ville de Bergame ne vont pas s'arrêter en huitième, en quart de finale, mais peut continuer à aller plus loin.
Voilà, Bergame qui a joué à Milan. Justement, parlons du Milan AC, les équipes de tête du championnat. Rapidement, Simone, quelques affiches pour le week-end.
Bah oui, on part par la Juve qui va se déplacer à Ferrare face à la Spal, là où l'année dernière il avait perdu avec une équipe remaniée, 9-11e étaient des remplaçants parce qu'il y avait la Ligue des Champions dernière. Là aussi il y a la Ligue des Champions derrière, mais on devrait avoir un Juve presque titulaire avec Cristiano. Pjanic n'est pas au 100%, et Higuain aussi un peu blessé, mais Dybala titulaire, Chiellini devrait jouer quelques minutes. Donc Maurizio Sarri, qui après les polémiques des dernières semaines, veut quand même continuer à faire enchaîner des matchs à ses titulaires parce qu'il y a la Ligue des Champions dernière et parce que les déplacements à la Spal, c'est pas toujours simple. Autre match de haut niveau, l'Inter joue face à la Sampdoria de Claudio Ranieri, un retour pour Claudio Ranieri à Milan, avec cette victoire en Ligue Europa avec les premiers buts d'Eriksen qui a donné un peu une nouvelle enthousiasme aux Nerazzurri après les défaites face à Naples en Coupe d'Italie et à la Lazio en championnat. C'est une Inter qui cherche de tenir tête à la Juve et dont l'Europa League a donné encore plus de force et de ressources.
Merci beaucoup Simone Rovera, notre consultant pour le football italien, pour toutes ces précisions, et on se retrouve lundi prochain pour l'après-match, bien entendu. Avant d'aller en deuxième partie, un petit bonjour à tous nos auditeurs et les questions de nos auditeurs. Youssef Laroche, bien sûr, qui dit que le problème du Paris Saint-Germain, ce n'est pas l'entraîneur. Wilbda, des questions à Fred. Est-ce que Dembélé quitte le Barça? Également la question de Ahmed Abbé. Eh bien, plein de questions à propos de l'Atlético, du Barça. On posera les questions dans un instant, dans la deuxième partie, à Frédéric Hermé, notre consultant pour le football espagnol. On écoutera également Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real, avant d'affronter Levante en championnat. Le Real qui a été accroché, vous le savez, sur son terrain la semaine dernière en championnat. Il est toujours leader, mais le Real n'a plus qu'un petit point d'avance sur le Barça. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans un petit instant. La deuxième partie de l'avant-match, la deuxième partie, beaucoup de questions à Fred, la première partie déjà, il y a des auditeurs qui ont posé des questions à Fred, dont on va les poser à Monsieur Football Espagnol, Frédéric Hermel. Bonsoir Fred.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous.
Et Aurélien de Vernois, notre Monsieur Football Anglais, est avec nous également pour cette deuxième partie. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Hakim, bonsoir Fred, bonsoir à tous.
Bon, quelques réactions de nos auditeurs. Wilbda qui pense que le Real va remporter la Liga. Une autre question, pourquoi Carles Pérez est parti à la Roma et rejeté Bakambu pour acheter Bright White? On va revenir dans un instant. Et également Youssef Laroche qui posait la question tout à l'heure à propos du problème du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas l'entraîneur qui est le problème pour lui. Et également, bonsoir Oussama Hanish. On commence d'abord par, avant de revenir sur la Ligue des Champions, les résultats enregistrés. Bon, pour le championnat anglais, il n'y a plus de suspense, on le sait. Liverpool, c'est le futur champion, même si Liverpool est tombé à Madrid face à l'Atlético 1-0 en attendant le match retour. On va parler de la nouvelle recrue du Real, plutôt du Barça, Fred, mais d'abord écoutez ça.
I've heard people say that too much of anything.
Voilà, c'est Barry White, cette voix, bien entendu, d'un chanteur, compositeur, un musicien énorme décédé il y a quelques années. Et le Barça qui s'est renforcé, il y a une question justement, pourquoi le mercato n'est pas fini, mais c'est une exception pour l'Espagne apparemment, Fred.
En fait, le mercato est fini, sauf qu'il y a une règle qui risque d'être bientôt remise en cause, mais en tout cas qui fonctionne encore cette saison. C'est que quand un joueur d'un club se blesse pour plus de 5 mois, le club du 10 joueurs a le droit d'obtenir ce qu'on appelle un joker médical, c'est-à-dire d'inscrire un nouveau joueur, donc de transférer un nouveau joueur et de l'inscrire en Liga, pas en Ligue des Champions. Donc Martin Braithwaite ne pourra pas jouer à la Ligue des Champions, mais il peut jouer en Liga et en Coupe du Roi. Le Barça n'est plus engagé en Coupe du Roi, mais en tout cas, il peut jouer en Liga. Le gros problème, c'est que l'équipe de Leganés ne peut pas acheter d'autres joueurs pour remplacer Braithwaite. Ce qui fait que c'est une règle très injuste. Et d'ailleurs, la une de Marca aujourd'hui était très dure contre ça en disant on ne peut pas faire des choses comme ça, quoi. On ne peut pas dépecer Leganés du joueur qui marque 35% de ses buts, un Leganés qui est avant-dernier de la Liga et qui maintenant est quasiment condamné à la descente, parce que Leganés n'a rien pu faire, puisque le Barça a payé la clause libératoire du joueur à partir du moment de 18 millions, à partir du moment où le joueur a accepté de partir. Leganés ne pouvait absolument rien faire, et Leganés ne pouvait même pas réagir donc pour acheter un nouveau joueur pour remplacer Braithwaite. Donc c'est une règle absolument ridicule et qui est très pénalisante pour un club en plus très sympathique comme Leganés.
Voilà donc pour cette précision, la nouvelle recrue Oussama Hanish qui pense contrairement à Oulibda qui pour lui le Real sera champion avec la pire saison du Barça et qui n'a qu'un point de retard sur le Real, et bien le Barça va remporter le championnat. On est encore loin de la fin du championnat et on le voit cette année encore, le championnat très disputé, le Real Madrid comme le Barça malmené par plusieurs adversaires, des équipes coriaces et bien entendu tout reste à jouer dans cette Liga. On revient sur la Ligue des Champions, on commence par le champion d'Europe, le tenant du titre. L'équipe imbattable a chuté. C'était en Espagne, avant de parler de l'Atlético de Simeone qui est malade. Eh bien, cette équipe de Liverpool a chuté, perdu 1-0. Et on a l'impression que le 1-0 est plus difficile à rattraper que le 3-0 face au Barça. Aurélien, on va voir avec Fred dans un instant. Même si en Angleterre, on est optimiste, en Angleterre.
Oui, on reste optimiste parce que Liverpool, c'est quand même une équipe qui performe de manière extraordinaire en Ligue des Champions depuis deux saisons et demie. Mais c'est vrai que rattraper des buts à l'Atlético avec son système de jeu, c'est pas comme rattraper des buts au Barça, ça c'est certain. Il y aura beaucoup moins d'espace dans la défense madrilène au retour qu'il y en a eu du côté du Barça l'an passé. Mais la défaite, si vous voulez, de Liverpool, c'est pas non plus une anomalie totale quand on voit les performances de Liverpool à l'extérieur en Ligue des Champions depuis deux ans. Il y a eu plusieurs défaites, rappelez-vous, même Liverpool avait même perdu à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils ont perdu contre le PSG, ils ont perdu contre Naples deux fois. Donc Liverpool, c'est pas forcément une équipe qui est toujours à l'aise à l'extérieur. Et rappelez-vous, d'ailleurs, contre le Barça, ils avaient pris une leçon de foot lors de l'aller l'an dernier, c'était les demi ou les quarts, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, ils avaient pris 3-0. Donc, C'est Liverpool, c'est peut-être la petite faiblesse de ce club, c'est sa capacité à être fort en déplacement dans les coupes européennes. Mais c'est vrai que sa grande force, eh ben, c'est sa capacité à performer à domicile. Et malgré tout, l'Atlético va devoir être très, très, très vigilant pour conserver ce petit but d'avance qu'ils ont pu obtenir. Parce que le match que font Sané et Salah, ils ne le referont pas une deuxième fois. Ils ont fait un match vraiment très décevant aussi en raison de la bonne tactique et de la bonne performance en face de l'Atlético. Mais ça ne va pas arriver deux fois. Et donc pour le retour, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour les Madrilènes.
Voilà, donc pour cette rencontre, je reviens parce qu'il y a beaucoup de... Pourtant, le Barça ne joue que la semaine prochaine en Ligue des Champions, tout comme le Real Madrid. Il y a beaucoup de supporters et supportrices du Barça ou de Bda. Pour lui, Liverpool va remporter le match retour et pourquoi pas, eh bien, Mohamed Salah, pourquoi ont été remplacés? Il a expliqué l'autre jour Klopp parce que Mané avait été averti et bon, peut-être pour donner plus d'allant à cette équipe anglaise et également d'autres. Diakité, Mamadou, bonjour à tous les consultants de Médias. Est-ce que Dembélé va quitter le Barça rapidement parce qu'il est blessé? On le sait, il s'est fait opérer pour que Fred réponde et après on va en Ligue des Champions. Rapidement, Fred.
Mais comment voulez-vous qu'il quitte le Barça? Personne ne va acheter un joueur blessé. Voilà, tout simplement. Donc là, Dembélé, il en a pour 6 mois. Donc vous calculez 6 mois, c'est l'été prochain et je ne vois pas quel club pourrait mettre au-delà de 100 millions parce que c'est son prix réel, hein. Il avait été acheté 140 millions ou 130 millions si je me souviens bien il y a 2 ans et demi. Donc si Dembélé, je ne vois pas comment le Barça pourrait, quel club serait assez fou pour dépenser plus de 100 millions pour un joueur dont on ne sait pas dans quel état il sera dans 6 mois, quoi. Vraiment, enfin, c'est non. Dembélé va rester, enfin, à moins que le Barça le brade et qu'un autre club puisse prendre un énorme risque, même à moindre frais. Dembélé va être là la saison prochaine au Barça. Et voilà. Par rapport à Mané, Klopp, il a été très intelligent. Il l'a sorti à la mi-temps parce que quelques minutes avant le repos, Mané a de nouveau mis un coup de points à un joueur de l'Atlético et qu'il était à deux doigts de se faire expulser. Enfin, c'est d'ailleurs incroyable qu'il n'ait pas été expulsé. Donc, bien sûr que Klopp a été très vigilant à ce niveau-là. Il a eu un réflexe en disant, de toute façon, Mané, l'arbitre a repéré Mané et la prochaine fois, il lui a déjà pardonné excusé ce deuxième carton jaune. La prochaine fois, ça sera la bonne. Donc, il a eu raison de pas se retrouver à 10 lors de ce match très compliqué pour Liverpool. Et puis, en plus, d'empêcher Mané d'être présent là, dans 3 semaines, quoi. C'est logique.
Voilà donc pour cette question. Et Youssef Laroche, à propos de la nouvelle recrue du Barça, Fred, on a parlé tout à l'heure. On essaie d'avancer. Quelle a été la réaction? Bien sûr, ça fait du bien à cette équipe de l'Atlético. La victoire l'autre jour, 1-0. On l'a vu, bien sûr. C'est une balle arrêtée, comme souvent pour l'Atlético. Et puis, on a fermé, même si il y avait moyen de marquer d'autres buts, Fred.
Ah bah, l'Atlético, on peut même trouver que le résultat est un peu juste. Parce que Morata a une balle de 2-0 incroyable au point de pénalty sur un centre du meilleur homme du match total, hein, c'est Arias, hein, le latéral qui a été absolument merveilleux, latéral gauche de cette équipe de l'Atlético. Il glisse au moment de reprendre le ballon au point de pénalty Morata et c'était la balle du 2-0. Donc moi ce que j'ai vu aussi c'est un Liverpool qui certes a eu la domination de la balle mais qui a fait 0 tir cadré pendant 90 minutes, 0 tir cadré. Donc il faudra faire autre chose à Anfield. Mais l'Atlético, de toute façon, son but était de ne pas être éliminé dès le match aller. C'est-à-dire de ne pas se prendre un 3-0, un truc comme ça, ou au moins une victoire de Liverpool en se disant je vais aller à Anfield avec déjà des buts dans les valises. Non, là, l'Atlético aurait rêvé déjà d'un 0-0. Donc 1-0, c'est miraculeux. Je pense aussi qu'il y a une intensité dans le jeu de l'Atlético qu'il n'y a pas eu à Liverpool. Et vous ne m'enlèverez pas de l'esprit, et j'en ai parlé avec beaucoup de gens, notamment avec le consultant d'RMC avec qui j'étais ce soir-là, Rio Mavuba, que quand vous avez 25 points d'avance dans votre championnat, eh ben vous n'êtes pas aussi compétitif chaque dimanche. Voilà, c'est comme ça, Louis. C'est pas, vous ne jouez pas pareil quand vous avez 25 points d'avance sur le deuxième. C'est donc cette habitude de compétitivité de rentrer dedans, automatiquement vous en perdez un petit peu. C'est humain. c'est humain. Et l'Atlético a su en profiter.
On va continuer à parler de football et la Ligue des Champions. Un petit mot sur Tottenham. Juste Ahmed Abbé qui a posé des questions en première période, en première partie déjà. On va parler, mais ce sera la semaine prochaine puisque Naples face au Barça. Il pense que l'équipe italienne a ses chances. Et puis, surtout avec le 4-4-2 également, le Real n'aura pas de chance face à City. C'est Ahmed Abbé qui parle ainsi, mais on aura l'occasion de revenir sur ces sujets la semaine prochaine puisque vous le savez, c'est la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Pas mal de réactions de nos auditeurs. On va essayer d'avancer rapidement, Aurélien, cette petite prestation des hommes de Mourinho l'autre jour, c'est vrai, privé de certains joueurs cadres, mais n'empêche, eh bien, Tottenham a vraiment déçu et on a l'impression que cette équipe de Leipzig était largement, mais vraiment largement supérieure.
Ah oui, non, c'est évident. Hein, sur cette rencontre, il n'y avait vraiment pas grand-chose à dire. Et comme l'Atlético aurait peut-être pu en effet s'imposer avec un peu plus d'écart face à Liverpool, Leipzig, à mon avis, peut regretter de ne pas repartir de Londres avec un résultat encore plus favorable, même si c'est évidemment favorable de s'imposer extérieur à l'aller. Mais ils ont vraiment démontré à la fois dans le talent individuel et dans la mise en place tactique que cette première apparition pour le club en phase éliminatoire de la Ligue des Champions est plus que méritée. Ça a été vraiment un match très très complet, très très sérieux de l'équipe allemande avec, encore une fois, je pense, celui qui est probablement l'un des meilleurs avant-centres aujourd'hui en Europe, c'est Timo Werner, qui d'ailleurs est très courtisé par Liverpool et par Jürgen Klopp, mais il a été très très bon encore une fois, il a mis ce penalty. Bon, c'est une grosse prestation. Et puis ce qu'on peut regretter certainement du côté de Tottenham, c'est finalement un peu la frilosité tactique de Mourinho. Après, quand il vous manque vos deux meilleurs joueurs, à savoir Harry Kane et Heung-Min Son, c'est compliqué d'être compétitif dans une compétition européenne comme la Ligue des Champions. C'est vrai que c'est dur pour Tottenham. Là, cette blessure, cette fracture du bras de Heung-Min Son ce week-end, ça a été vraiment le coup de trop derrière les oreilles de cette équipe de Tottenham. Et je vois pas trop comment Tottenham va pouvoir vraiment rebondir derrière ça, parce que il y a des bons joueurs dans cette équipe, mais encore une fois, quand vous perdez vraiment, je dirais, vos deux stars, et qu'en plus vous avez perdu Eriksen au mercato d'hiver, c'est comme un peu l'Ajax en Ligue Europa, on le voit cette saison. C'est compliqué parce que il vous manque des éléments essentiels pour faire tourner l'équipe.
Voilà donc pour l'équipe de Tottenham. On va essayer d'avancer parce que le week-end est intéressant, surtout en Espagne. Et après ce qui s'est passé le week-end dernier, vous le savez, le Real qui a cédé du terrain avec ce match nul face au Celta Vigo. Ils étaient deux partout après avoir été menés à la marque en championnat. Le Real a mené 2-1 et il y a eu égalisation vers la fin. Deux partout qui intervient quelques jours après avoir encaissé pas mal de buts face à la Real Sociedad en Coupe d'Espagne. Et du coup, eh bien, la question se pose à propos de la défense. On a gardé, puisque tout à l'heure, Zinedine Zidane a animé une conférence de presse avant le match de Levante, eh bien, on a gardé la question de Frédéric Hermel à adresser à l'entraîneur du Real Madrid.
Tu as dit toi-même l'autre jour que commencent les semaines très compliquées là, avec des matchs couperets où la défense est très importante. Ça, c'est évident, au plus haut niveau, notamment Ligue des Champions, la défense est essentielle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est ta conception, toi, en tant qu'entraîneur, de ce que doit être une bonne défense? C'est quoi un système de défense global, d'un point de vue vraiment d'entraîneur?
C'est tout le monde défend. Tu n'as pas le ballon, tout le monde défend. C'est vrai qu'on essaye de chercher beaucoup de... Et chacun peut dire plein de choses, en fait, sur ça, sur la défense, sur comment je défends, comment... Mais pour moi, le plus important, quand tu n'as pas le ballon, c'est que tout le monde soit concerné pour récupérer le ballon le plus vite possible. Et pour moi, c'est ça la clé d'une équipe, la clé d'une bonne défense. Parce qu'on parle toujours, et je le dis souvent, ça, on parle toujours du gardien qui arrête une défense qui défend bien. Non, pour moi, c'est tout le monde qui doit être concerné par ça. Si t'es concerné et si t'es impliqué quand tu n'as pas le ballon à ta tâche défensive, chacun, c'est plus facile pour après être bon.
Voilà donc Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, à la veille de ce match face à Levante. De son côté, eh bien, le Barça est revenu à une longueur, bien sûr, et la lutte qui fait rage. À propos du week-end, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement, Fred?
Ben, qu'il y a un match a priori abordable pour le Barça contre Eibar demain après-midi à 16h. Avec la recrue, hein, Martin Braithwaite, le Danois de Leganés, qui a déjà été convoqué, qui est déjà dans le groupe pour affronter l'équipe basque. Eibar qui avait posé des problèmes au Barça durant les matchs allés. Il est évident que le Barça peut mettre une pression sur le Real qui joue, lui, demain soir, en cas de victoire, en prenant 2 points d'avance et la tête du championnat. Un Real Madrid qui a un déplacement très, 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 très compliqué. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça va être dur. À Valence, pas contre Valence, mais contre Levante, l'autre club de la ville, une équipe qui a 29 points aujourd'hui et qui a pris, sur les 29, il en a pris 20 points à domicile. C'est dire si ça va être compliqué. Et le Real, en général, a beaucoup de difficultés sur la pelouse de Levante. Donc voilà, il va falloir, après une semaine durant laquelle Zidane a beaucoup travaillé avec ses joueurs, je lui ai posé cette question de la défense parce que qu'est-ce qui s'est passé lors des derniers de certains matchs, notamment celui de la semaine dernière en Liga, et la perte de 2 points face au Celta Vigo, c'est que le Real en encaissait 2, ils en avaient encaissé 4 quelques jours plus tôt lors de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad, là aussi à domicile, 4 buts d'encaissés. Donc il faut resserrer un peu les boulons en défense. Donc il serait très intelligent pour le Real Madrid de ne pas perdre. En tout cas, même de ne perdre aucun point sur la pelouse de Levante, parce que dans une semaine, vous avez le Classico à domicile. Donc il est toujours mieux d'aborder un Classico avec 1 point d'avance qu'avec 2 points de retard.
Voilà, donc Zinedine Zidane qui tout à l'heure a regretté de ne pas pouvoir disputer les Jeux Olympiques. C'est magnifique, a-t-il dit, Zidane l'entraîneur aujourd'hui, mais le joueur qui a tout gagné, champion du monde et champion d'Europe avec l'équipe de France, champion d'Europe avec le Bayern, plutôt le Real Madrid, sans oublier les titres remportés avec la Juve. Rapidement, Aurélien, rapidement pour refermer cette édition, le bonjour à Hassan El et également Samir Ouarab qui passe le bonjour à toute l'équipe. Rapidement, le week-end, on le sait, Liverpool, champion quasiment, Manchester United qui a gagné un match en retard, mais la lutte pour les deuxièmes places, troisièmes et également les places européennes fait rage. Rapidement, Aurélien.
Alors pour la deuxième place, c'est un match capital évidemment, puisque Manchester City affronte Leicester, et donc ce sont les deux clubs qui sont coude à coude pour la seconde place donc de ce championnat d'Angleterre. Après, c'est vrai que pour la quatrième place et la cinquième place, qui risquent d'être qualificatifs pour la Ligue des Champions vu que City est suspendu des prochaines compétitions européennes, eh bien là c'est les portes ouvertes, hein, parce que imaginez, entre Chelsea qui est quatrième avec 41 points, et Southampton qui est 12e avec 31 points, donc il n'y a que 10 points d'écart. Donc finalement, les places de Ligue des Champions sont encore très ouvertes. Et donc il y a ce week-end une rencontre entre Chelsea et Tottenham, le 4e et le 5e. Donc là, ça risque de jouer. Bah, c'est un match à 6 points hein, pour ces qualifications pour la Ligue des Champions. Et puis derrière, il y a des équipes un petit peu surprises. Sheffield, Everton qui revient très bien depuis qu'Ancelotti est arrivé. Wolverhampton, qui est vraiment une équipe qui marche très bien également, qui a mis 4-0 à l'Espagnol en Ligue Europa. Donc voilà, il y a plein de matchs intéressants. Wolverhampton qui joue Norwich et puis United qui affronte Watford. Les deux sont plutôt des mal classés. Donc voilà, il y a possibilité que ça se resserre encore autour de la 4e et la 5e place.
Merci beaucoup Aurélien de Vernois. Merci également à Frédéric Hermel à Madrid, nos amis à la réalisation et nos auditeurs. Excellente soirée à l'écoute de Média.